Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous assistons à un épisode de la vie de notre Seigneur Saint-Didier. Notre Seigneur qui pleure, Dieu incarné qui pleure sur Jérusalem, sur cette ville des Juifs qui sera détruite à cause de son infidélité. Et il y a également une leçon pour nous, parce que Jérusalem est également la figure de l'âme chrétienne. Et notre Seigneur qui pleure sur Jérusalem, c'est aussi notre Seigneur qui pleure sur les âmes qui sont tombées aux mains du démon, qui sont détruites par le péché et qui finalement sont livrées au feu de l'enfer. Pourquoi est-ce que la Jérusalem terrestre est tombée ? C'est parce qu'elle a négligé le jour où elle a été visitée. Visitée, c'est-à-dire par notre Seigneur, bien sûr. Et pourquoi est-ce que l'âme tombe en enfer? C'est parce qu'elle néglige le jour où elle a été visitée par la grâce, cette fois. Cette grâce qui nous a été méritée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme le dit saint Paul dans son épître, nous venons de lire, « Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous ménage une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter, c'est-à-dire la grâce de surmonter la tentation, de repousser la tentation. » Et remarquez, chers fidèles, que notre Seigneur pleure sur Jérusalem bien avant sa chute. C'est parce qu'effectivement, souvent, les grandes chutes des âmes, leurs grands péchés, ne viennent qu'après une longue fidélité, une longue suite d'infidélité à la grâce, qui rendent l'âme de plus en plus vulnérable. Elle a négligé de prendre les moyens qui lui auraient permis de se garder du démon, de résister au démon. Et à force d'être affaiblie, elle a fini par tomber. Comment donc résister aux attaques du démon qui, comme le dit saint Pierre, est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, qui rôde, cherchant qui dévorer, cherchant nos points faibles. Il existe bien des moyens de résister à la tentation. Il y a bien sûr avant tout la prière, il y a aussi le fait de veiller, c'est-à-dire la garde du cœur. Mais il y a un autre moyen qui est très puissant également, et c'est la mortification. Comme le dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, ne convoitez pas, c'est-à-dire mortifiez-vous, mortifiez la concupiscence qui se trouve en vous. Et c'est un moyen très efficace qui rend l'âme forte contre le démon en la détachant petit à petit de l'attachement au bien de ce monde, au plaisir terrestre, qui fait qu'elle sera bien moins facile à tenter par le démon. Elle laissera moins de prise à son action, à la tentation. Voyons donc d'abord ce qu'est exactement la mortification, parce qu'on se fait facilement de fausses idées à ce sujet, et ensuite quelques principes généraux qui nous aident, qui peuvent nous guider pour savoir bien nous mortifier de manière efficace. Et d'abord, qu'est-ce que la mortification? Facilement, on peut se faire des idées un peu fausses à ce sujet. On pense à une personne mortifiée, vous ne pensez certainement pas à c'est une personne épanouie et joyeuse. Et pourtant, tous les saints ont été mortifiés et tous les saints étaient joyeux. Comme le dit saint Jean Bosco, un saint triste est un triste saint, une véritable joie. Eh bien, peut tout à fait et doit même accompagner la mortification. Une personne mortifiée, ce n'est pas une personne morose, une personne associable, une personne désagréable, une personne qui vit un peu dans son coin. Non, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que la mortification? La mortification, une âme mortifiée, c'est comme une âme qui est protégée par une puissante muraille contre le démon. Parce qu'en réprimant la chair, en réprimant la concupiscence, l'ennemi du dehors est affaibli. Mortification vient de deux mots latins, mortem facere, faire la mort, donc faire mourir en nous quelque chose, c'est la concupiscence. Parce que après le baptême, comme l'enseigne le Concile de Trente, le baptême efface bien sûr tous les péchés, le péché originel, tous les péchés, mais laisse en nous ce qu'on appelle donc la concupiscence, qui nous pousse au péché. Ce n'est pas le péché, mais ça nous y pousse, ça nous affaiblit, ça nous rend faibles. Et pour réussir à faire mourir, ou du moins à affaiblir, parce que la concupiscence reste en nous jusqu'à notre mort, mais on peut l'affaiblir par cette mortification justement, qui consiste petit à petit à nous détacher des biens de ce monde, de tout ce qui nous attache à autre chose qu'à Dieu, et à Dieu seul. Et comment se mortifier le cardinal Mercier, dont je vous invite à lire sa petite plaquette, La mortification chrétienne. C'est une plaquette très courte, très, très pratique, très bien faite, et très profonde en même temps. Et le cardinal Mercier résume ce qu'est la mortification, les principes généraux de la mortification, dans cette phrase. En général, sachez refuser à la nature ce qu'elle vous demande sans besoin, et sachez lui faire donner ce qu'elle veut, ce qu'elle vous refuse sans raison. Donc deux principes, générosité dans le travail, faire donner à la nature ce qu'elle voudrait nous refuser sans raison, et aussi sobriété dans l'usage des biens de ce monde, donc savoir refuser à la nature ce qu'elle demande sans besoin. Voyons donc ces principes généraux, et d'abord la générosité dans le travail, c'est-à-dire dans le devoir d'État. Un jour, notre Seigneur disait à sœur Lucie, au sujet de certaines âmes, bien que ces âmes négligeaient de rechercher la sainteté, pourquoi ? Parce qu'elles croyaient que la sainteté consistait dans de grandes pénitences, et comme elles ne se sentaient pas la force ni le courage de se livrer à ces grandes pénitences, qu'on voit parfois dans la vie de certains saints, bien ces âmes négligeaient de marcher dans le chemin de la sainteté. Et notre Seigneur les reprenait en disant, la sainteté ce n'est pas cela. La sainteté, et ce qui conduit à la sainteté, c'est l'accomplissement fidèle du devoir d'État. L'accomplissement fidèle du devoir d'État. Et si on y pense, chers fidèles, c'est là une très grande mortification, parce que cela mortifie notre bien qui est le plus précieux, c'est-à-dire notre volonté. Sans cesse, au cours de la journée, nous avons des petits caprices, plutôt que notre devoir d'État, plutôt que ce qui est plus utile pour nous-mêmes, pour les âmes, pour notre devoir, bien, on aurait envie de faire autre chose, de mettre la priorité aux choses qui nous sont les plus agréables, qui correspondent le plus à nos facilités, aux dons de notre nature. Et en fait, si on s'examine là-dessus, tout au cours de la journée, sans cesse, nous sommes un petit peu tiraillés par de multiples petites tentations qui voudraient nous faire dévier un tout petit peu de notre devoir d'État. Sans négliger totalement notre devoir d'État, eh bien, laisser à notre nature prendre un peu son aise tout au cours de la journée. Et si on est très attentif à ne faire que son devoir et de tout son cœur, en fait, c'est très difficile. Et c'est une grande mortification, une mortification qui est extrêmement méritoire et extrêmement sanctifiante. Parce qu'il s'agit, tout au cours de la journée, de ne faire que la volonté de Dieu, en fait. Et par conséquent, de tout faire pour la gloire de Dieu, de tout faire pour son amour, et donc de tout faire par charité. Comment se mortifier de cette manière-là, dans le devoir d'État ? Eh bien, d'abord, éviter l'oisiveté. Bien sûr, se lever suffisamment tôt pour bien remplir tous ses devoirs, et par conséquent, se fixer une heure de lever et de coucher, déjà, ça peut être parfois difficile, et tout au cours de la journée, bien organiser sa journée pour trouver un juste milieu en tous nos différents devoirs. Le travail, bien sûr, mais aussi la prière, laisser un temps suffisant à la prière, le prière du matin, du soir, le chapelet, un peu de méditation, une lecture aussi, tous les jours, ou au moins toutes les semaines, quelques fois par semaine. Là aussi, est-ce qu'on réserve suffisamment de temps pour essayer d'étudier cette parole de Dieu, pour étudier la doctrine sacrée qui est si utile? Là aussi, ça demande de retrancher parfois de notre temps qu'on voudrait consacrer au divertissement, des choses plus utiles. Et puis aussi, donner un certain temps, mais un temps bien défini et un temps qui est bien sage au divertissement, autant que, pas plus que. Et là aussi, facilement, on dépasse la mesure dans la question des divertissements. Donc, bien se fixer un juste milieu en tout. Et aussi, éviter une autre type d'oisiveté, qui est plus profonde et peut-être plus dangereuse et plus difficile à réprimer. C'est l'oisiveté de l'imagination, qui a tendance à partir un peu à droite, à gauche, qui est, comme l'a dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, un peu la folle du logis, qui a bien du mal, on a bien du mal à fixer notre imagination, que ce soit pendant les prières, éviter les distractions, pendant notre travail aussi, éviter les distractions, éviter aussi de ressasser des choses qui nous ont déplu, quelqu'un qui nous a manqué un peu l'égard, éviter de ressasser cela, éviter de se préoccuper exagérément du futur, de prévoir tout ce qui peut nous arriver, de difficile, des événements compliqués, tout ça, arrêter de ressasser tout cela, de s'inquiéter sans cesse, réprimer notre imagination là-dessus, c'est bien difficile. Donc voilà, éviter l'oisiveté du corps, éviter l'oisiveté de l'imagination. Et attention, chers fidèles, dans ce mot « devoir d'État », on peut facilement se tromper. On pourrait penser que « devoir d'État », chercher la sainteté par le devoir d'État, ce serait une sorte de morale du minimum, en faire le moins possible que son devoir, le strict nécessaire, mais sans se proposer pour rendre service aux autres, sans jamais chercher à faire davantage que ce qui est strictement obligatoire. Et cela est tout à fait faux. Chercher son devoir d'État, bien remplir son devoir d'État, demande une générosité. Ce n'est pas faire le moins possible, c'est au contraire faire tout le bien possible, même dans un cadre qui peut être extrêmement ordinaire. Faire tout le bien possible avec un amour extraordinaire de Dieu, même si extérieurement, nos actes peuvent être très ordinaires. Là-dessus, l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est très significatif. Extérieurement, elle n'a rien fait d'absolument étonnant, d'extraordinaire. Elle ne s'est pas livrée à des pénitences inouïes, comme on le voit dans certains vies de saints. Bon, c'est un cas très ordinaire. C'était une carmélite, tout simplement, qui est morte très jeune. Mais elle faisait tout avec un extraordinaire amour de Dieu. Elle cherchait à faire tout le bien possible, rendre service à ses sœurs, et notamment à celles que naturellement, elle avait plus de difficultés à apprécier. Et tout cela, tout au cours de la journée, elle crucifiait son cœur par cette mortification toute silencieuse, toute discrète, qui est tout à fait possible pour chacun d'entre nous. Parce que le chrétien, ce n'est pas un mou. Notre Seigneur dit bien, ce sont les violents qui remportent le royaume des cieux. Il faut donc se faire violence. Les chrétiens doivent vivre à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et Dieu, comme le dit notre Seigneur, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. On agit de tout son cœur pour l'amour de Dieu. Donc c'est le premier grand principe, savoir faire donner à notre nature tout ce qu'elle nous refuse sans raison. Générosité dans le devoir d'État. Deuxième principe, savoir refuser à notre nature ce qu'elle nous demande sans nécessité. Donc c'est la sobriété dans l'usage des biens de ce monde. Mais avant de voir le fait de retrancher de notre journée, de retrancher de notre vie les joies inutiles, il faut d'abord savoir accepter les épreuves qui nous sont imposées, avant de s'en imposer de supplémentaires, savoir accepter d'abord ce que la Providence nous envoie. Comme le dit notre Seigneur dans cette belle parabole de la vigne, « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron, tout sarment, c'est-à-dire tout chrétien, tout catholique, qui en moi porte du fruit, mon Père l'émonde pour qu'il en porte davantage. » Donc une vigne porte beaucoup de fruits, le vigneron doit l'émonder, parce que sinon la sève part dans une multitude de sarments, part un peu dans tous les sens, et dans ce cas-là il y a très peu de fruits qui est donné par la vigne. De même, dans notre vie, la vie de l'âme, si le Père, si le bon Dieu ne nous émonde pas, de notre activité passera en toute une série d'attachements au bien de ce monde, attachements à une foule de choses. Notre cœur s'éparpille d'une certaine manière et ne tend pas tout entier vers l'amour de Dieu. Alors le bon Dieu nous émonde, nous purifie par les épreuves. Il faut savoir bien les accepter avec esprit de foi. Cela, c'est une grande mortification aussi. Ne pas se plaindre des maladies, ne pas se plaindre du chaud en été, du froid en hiver, ne pas se plaindre de la nourriture qu'on peut trouver désagréable, et ainsi de suite. Hein. Tout cela, ce sont une multitude de petites choses tout au cours de notre journée et qui nous mortifient. C'est un véritable esprit de mortification. Là-dessus, cette unité qui est entre la grâce et les épreuves, il nous est bien montré par un épisode de la vie de Sainte Rose de Lima, religieuse, sacerdoine dominicain. C'était un peu avant sa mort, parce qu'elle allait connaître une terrible agonie, une agonie très difficile. Le bon Dieu a voulu la fortifier par une vision. Elle se voyait au ciel avec beaucoup d'âmes. Et il y avait au ciel une grande balance. Et les anges, pour chacune des âmes, mettaient sur la balance un poids déterminé. Et vis-à-vis du poids, ils mettaient un certain nombre d'épreuves que cette âme aurait à subir avant de rentrer au ciel. Et Sainte Rose a vu qu'elle allait avoir la plus grande part d'épreuves. Et ensuite, les anges ayant enlevé tout la balance, mais recommencent cette fois-ci avec le même poids, mais pour chacune des âmes, différent, un poids différent pour chacune des âmes, et vis-à-vis du poids, ils mettaient cette fois-ci des grâces. Il y avait le même équivalence de grâce avec les épreuves. Et là aussi, Sainte Rose a reçu la plus grande part de grâce. Et notre Seigneur a commenté, l'affliction, donc les épreuves, est toujours la compagne de la grâce. La grâce est proportionnée à la douleur. La mesure de mes dons augmente avec la mesure des épreuves. La croix est la véritable et unique route pour aller au ciel. Donc quand on a toutes ces épreuves, ces difficultés, bien, pensons à cela, cela nous consolera. Mais il faut savoir aller plus loin que simplement accepter les épreuves. Il faut aussi savoir se priver volontairement de certaines joies permises. Comme le dit Saint Grégoire le Grand, très grand moraliste, celui-là seul ne tombe pas dans les choses illicites, c'est-à-dire dans le péché, qui se réfrène parfois dans l'usage des choses licites, des choses permises. Cette mortification, le fait de se priver volontairement de certaines joies permises, et on doit obéir, on peut dire, à deux caractéristiques. La première, c'est la prudence, ce que les saints appelaient la discrétion, c'est-à-dire, il y a un savoir ne pas se rendre pénible à son entourage, aussi savoir ne pas exténuer son corps. Bon, là-dessus, c'est assez facile à observer d'une manière générale. Mais l'autre caractère, c'est la générosité, savoir se mortifier généreusement. Et là-dessus, on s'invoque facilement beaucoup de faux prétextes pour ne pas se mortifier. Alors, il faut savoir bien donner de tout son cœur. Comme dit Saint Paul, celui qui sème peu, récolte peu. Si on veut récolter une grande joie au ciel, de grands mérites, il faut savoir semer beaucoup, c'est-à-dire donner beaucoup, savoir être généreux. Et l'Église met l'occasion de se mortifier, de faire des petites mortifications tout au cours de notre journée. Il ne s'agit pas tant de prendre des grandes pénitences que d'avoir un certain esprit, l'esprit qui consiste à ne pas se précipiter sur tous les plaisirs qui se présentent à portée de main, qui seraient permis, mais plutôt à se réfréner autant que possible. Hein, que ce soit de se tenir droit, c'est une certaine mortification, toute simple, toute discrète, qui ne tue personne, qui est très, très convenable. Savoir réfréner aussi notre curiosité des yeux, même quand il ne s'agit pas de se détourner de choses impures ou mauvaises, même réfréner nos yeux en toute occasion, à tout moment, quand on entend un petit bruit, ne pas tout de suite aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Savoir réfréner aussi notre ouïe, donc ne pas chercher à écouter, à s'informer de tous les petits bruits de la paroisse, de partout, et à savoir réfréner notre curiosité à ce sujet. C'est une petite mortification, toute discrète et très convenable. Au cours des repas, à savoir à chaque repas, se priver un tout petit peu, que ce soit se priver le sel, ou prendre davantage de ce qui nous plaît moins, prendre moins de ce qui nous plaît, ou encore ne pas trop chercher à jouir, à goûter, à se complaire dans son repas. On dit que saint Thomas était tellement absorbé par la contemplation et par la lecture, parce que les religieux, à table, nous avons une lecture de table, et saint Thomas était tellement concentré à écouter cette lecture qu'à la fin du repas, il ne savait même pas ce qu'il avait mangé quelques minutes plus tôt. Tellement, il ne cherchait pas à goûter, rien de même. Bon, ça en est jusqu'à saint Thomas, on peut chercher à ne pas trop se complaire dans toutes les petites joies qu'on a au cours de la journée, des petites facilités, du confort de la vie actuelle. Au contraire, savoir tendre tout entier vers Dieu et savoir se priver autant que possible de ces petites choses. En conclusion, chers fidèles, levons les yeux vers notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, ce mot « mortification » peut nous rebuter, sembler difficile à la nature. Alors notre Seigneur Jésus-Christ nous encourage. Qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Remarquez, chers fidèles, que notre Seigneur ne nous montre pas seulement ce chemin de la croix et du renoncement. Il nous a précédés. Il nous a d'abord montré l'exemple. Chepit facere et docere. Il a commencé par faire avant d'enseigner. Il nous précède et c'est comme ça qu'il nous encourage. Et dans notre chapelet, nous contemplons cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu aurait très bien pu nous sauver sans venir s'incarner, sans la passion. Et même notre Seigneur aurait pu en soi nous sauver par une seule goutte de son sang qui avait une valeur infinie. Eh bien non, notre Seigneur a voulu verser tout son sang, nous montrer cet exemple suprême de la générosité et de l'amour, celui de donner sa vie et dans les plus grands tourments. Alors quand on a des petites difficultés, quand on a du mal à accepter les petites croix ou en s'en imposer pour suivre notre Seigneur, bien, tournons nos yeux vers notre Seigneur, vers la croix. Cela nous donne un grand secours et cela nous donne en même temps les grâces parce que tous les événements de notre Seigneur, de la vie de notre Seigneur, la passion tout spécialement, nous donnent les grâces. Méditer la passion nous donne les grâces pour imiter notre Seigneur. Nous demandons à Notre-Dame cette grâce de la contemplation et puis aussi d'imiter notre Seigneur, elle qui s'est tenue au pied de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.